Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce rendez-vous quotidien. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er décembre 2021. Il fait gris dans le Beaujolais. De petites averses sont attendues toute l'après-midi. Et les températures, elles se situent autour de 6 à 7 degrés. Dans cette émission, on va parler de cuisine, on va parler zéro déchet avec nos spécialistes du sujet. On aura donc une rubrique sur l'alimentation et la santé. Et puis Carole Sénel, qu'on retrouve en fin d'émission, alias Marie Maguelon et sa rubrique sur le zéro déchet. Avant ça, on va accueillir notre invité du jour, Daniel Broutard de l'association Les Amis du Vieil Arbrel, association qui se consacre à faire découvrir les richesses du patrimoine historique, économique et humain de l'Arbrel et de sa région. Et je dois dire qu'il ne chôme pas avec de nombreuses publications de revues historiques chaque année, les Arborosa, mais également de livres en général, un important travail de conservation du patrimoine sous toutes ses formes, la gestion d'un musée également, beaucoup de choses donc, et notamment des films documentaires consacrés au patrimoine et récemment un film intitulé Le petit patrimoine rural du pays des pierres dorées, signé Patrick Aran et qui devrait sortir le 11 décembre prochain. Une bande-annonce est déjà disponible en ligne si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. On va parler donc aujourd'hui, vous vous en doutez, de patrimoine et de son importance, de comment prendre soin, comment le transmettre également. Et avec nous, donc, pour en parler, Daniel Broutard, président des Amis du Vieil Arbrel. Avant ça, on commence notre émission en musique, bien sûr. On va écouter le groupe MPL avec leur titre Entre les pierres. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
À pleurer, on leur tend un mouchoir, on leur dit que ça passera, juste un passage à vide, un souffle coupé, l'histoire de deux générations et c'est passé déjà, ok, la vie a ralenti un peu, mais le temps lui tranquillement suit son cours, les vieux sont chaque seconde un peu plus vieux, et les tuiles tombent toujours, ici l'église sonne aux heures pleines, et les murs tremblent un peu, de vérité, en mise en scène, on se laisse un peu prendre au jeu. Se mettent à pleurer, on leur invente des histoires juste pour que ça passe. On disait que le marchand de glace reviendrait et qu'on aurait des voisins qui s'installeraient en face, qu'il n'y aurait plus de maison vide jamais. Quand le patrimoine nous dépasse, c'est peut-être ça le pire, que seul compterait ceux qui arrivent et ceux qui sont restés, et que les nouveaux seraient les anciens et avec le sourire. Ici l'église sonne aux heures pleines et les murs tremblent un peu. De vérité, en mise en scène, on se laisse un peu prendre au jeu.
Sous vide. Je m'étais dit que je les ressortirais le jour où j'arrêterais de compter mes rides. Et puis quelqu'un que je connaissais même pas m'a dit « Mais faut bouger, faut mettre deux boules sur ton cornet !» J'ai pas compris mais je suis parti quand même, retrouver au bout la chaleur, celle qui fait de nous des êtres humeurs. Maintenant que je suis posé sur la place, que dirais-tu de briser la glace ?
Quand les pierres se mettent à pleurer, on leur raconte ce qu'on va vraiment faire. Qu'on va chasser les chats des granges à coups de balai, et qu'on va sauver les meubles avant qu'ils tombent par terre, qu'on s'y met, et qu'on va faire tellement d'enfants qu'on y croit aujourd'hui que le blues est loin derrière, qu'on écrit les vieilles histoires au présent, et qu'on sait lire entre les pierres. Ici l'église sonne aux heures pleines, et les murs tremblent un peu. De vérité, en mise en scène, on se laisse un peu prendre au jeu. Ici l'église sonne aux heures pleines, et les murs tremblent un peu. Vérité.
MPL sur Calade avec leur titre Entre les pierres.
Ensemble sur Calade.
Et ce qui se passe entre les pierres, je crois que ça intéresse beaucoup notre invité du jour, Daniel Broutier, président de l'association des Amis du Vieil Arbrel. Bonjour.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité.
Et ben, c'est un grand plaisir. On va parler aujourd'hui de patrimoine puisque c'est, je crois, ce qui intéresse votre association. On peut rappeler ce que c'est que cette association tout simplement et ses objectifs.
Oui. Bien sûr. Alors en fait, l'association est née en 63, donc vous voyez, c'était la grande époque du béton et du formica.
Ouais.
On est né à peu près en même temps que la renaissance du vieux Lyon, vous voyez.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait des quartiers qui étaient menacés de destruction totale pour remplacer par des bars ou des tours. Donc la réaction a été de se créer en association et de devenir défenseur. Et ce qui nous a toujours laissé ce côté militant.
Ouais.
C'est-à-dire que même aujourd'hui, on continue à se battre pour une cheminée d'usine, pour garder le souvenir industriel ou un morceau de mur d'enceinte, etc. Donc on n'oublie pas notre origine et on est toujours prêt à se battre avec tous les moyens à notre disposition.
Ouais, c'est-à-dire que dans les veines de l'association, il y a cette idée de, qu'il faut le défendre, ce patrimoine et cette histoire.
Oui, c'est le plus important. Enfin, c'est pas le plus important, c'est un des aspects importants. L'autre aspect important, c'est de rechercher cette histoire qui est fort riche,
ouais,
et de la partager surtout, de pas la garder pour soi, vous voyez, pas faire comme autrefois où on avait des personnes très 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 savantes, mais qui avaient du mal à partager. Non, aujourd'hui, c'est le contraire.
Il faut au contraire
essayer de sensibiliser et de partager avec les habitants, avec les élus, avec tout le monde, et d'essayer de faire quelque chose d'harmonieux, d'esthétique, en conservant les traces de ce patrimoine venant de ce qui vient de nos pères,
ouais,
et on n'est que les passeurs. Hein. Mmh. Nous sommes que les passeurs.
On a fait une émission avec Radio Calade il y a un an à peu près où on est allé avec des enfants à Morgon sur consacré au patrimoine de leur village. Et ils ont tous posé la même question à leurs invités pour commencer leurs interviews. C'est qu'est-ce que c'est le patrimoine ? Et je crois que c'était pas toujours facile de répondre à cette question. Alors peut-être que vous y arriverez un petit peu mieux. C'est quoi le patrimoine ?
Alors là, le patrimoine, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement large.
Ouais.
Très, très large. Parce que d'abord, il y a deux catégories. Il y a le patrimoine matériel, puis il y a le patrimoine immatériel.
Ouais.
Je prends l'exemple immatériel, par exemple, c'est de traiter la vie d'un homme célèbre du pays, ça veut dire, ou de redécouvrir ses œuvres, de redécouvrir ses écrits, ses musiques, etc. Mais après, le patrimoine, c'est le patrimoine historique, qui est le patrimoine urbain et qu'on essaye de conserver.
Ouais.
Mais dans le patrimoine, ça peut être des objets, ça peut être... c'est un peu tout, hein, ça peut être des archives.
Des savoir-faire aussi, ça rentre dans le patrimoine.
Bien sûr, puisque là aussi, on joue le jeu dans ce domaine, puisqu'on a un petit musée qui a gardé la trace du tissage, puisque l'Arbrel était une des villes de tissage importantes du Beaujolais.
Ouais.
Et donc, on a conservé dans un petit musée ce savoir-faire du tissage.
Et vous parlez de l'importance de le transmettre et de le partager, ce patrimoine. En quoi c'est essentiel de...
Ben, c'est essentiel justement dans la définition que je donnais tout à l'heure, où en fait on n'est que les passeurs. Hein.
Ouais.
On ne va pas le garder pour nous. Bien évidemment, on se fait plaisir, il ne faut pas le cacher. Hein. Quand on fait ça, c'est qu'on fait par amour et par passion, comme vous disiez tout à l'heure. Mais c'est au contraire de le partager avec d'autres, et c'est ça qui est beau, de rechercher, de partager, et même parfois en partageant, d'avoir le retour. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui vont nous apprendre des choses. On ne veut pas jouer le professeur en haut de son estrade et qui donne la bonne parole. Mais souvent, parfois c'est l'inverse, c'est le public qui va nous apprendre aussi des choses.
Et est-ce que justement le transmettre, ça participe à cette idée de le défendre ? J'imagine que plus on partage le patrimoine et plus on donne envie aux gens d'en savoir plus, plus ça permet de le...
Plus ils en savent, plus ils ont envie de protéger.
Ouais.
Bien souvent, on détruit des choses. Vous savez, c'est un peu comme quand on déménage. Parfois, quand on est très pressé, on jette des choses à la poubelle en disant « ça ne nous servira jamais
».
Et après, on regrette.
Ouais.
Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'urbanisation où on a un certain nombre de contraintes, eh bien on va peut-être détruire des choses qu'on regrettera après d'avoir détruites.
Parce qu'on ne sait pas...
On n'en a pas conscience. Même les premiers qui ont défendu le patrimoine, au départ par exemple, considéraient qu'avec avant le 18e siècle, ça se passait au 19e, ce qui était au 19e ne les intéressait pas. Alors que nous aujourd'hui, on en revient à dire, ce qui est au 20e.
Vous avez cité les cheminées, et effectivement moi ça m'avait... Les cheminées industrielles, moi ça m'avait tiqué, je m'étais dit, ça c'est dans le patrimoine aussi.
Oui, la cheminée industrielle. Ah ben la cheminée, c'est vraiment... Il y a des régions comme le Nord où ils en font carrément une politique de conservation.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'est véritablement un symbole fort, un symbole d'une période qui est la période de la révolution industrielle, mais c'est le symbole aussi de la classe ouvrière. quelque part. Bien et sûr. Puis finalement, c'est très beau une cheminée.
Et ça raconte
c'est
quelque
très,
chose.
C'est très beau. Ça peut s'intégrer. Et je crois que dans la région, justement, vous avez une cheminée actuellement qui a été sauvée dans un programme immobilier pas loin d'ici.
D'accord. Cette idée de conserver le patrimoine et de recenser, de s'informer, etc. Moi, on pourrait imaginer que depuis 1963 que l'association existe, on connaîtrait par cœur l'Arbrelle et sa région et on saurait tout ce qu'il y a à savoir. Mais vous découvrez encore chaque jour des choses et des nouvelles informations
sur
l'histoire.
Absolument. Parce qu'en fait, il faut se resituer. La grande période où on découvre l'histoire, c'est surtout au XIXe siècle.
Ouais.
Souvent, ce sont des érudits locaux ou des prêtres aussi, ou des professeurs, des instituteurs, des professeurs qui s'intéressent à ça. Et ils ont à leur disposition des archives locales, départementales, voire nationales. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'informatique et d'avoir cette ouverture sur le monde. Et parfois, il nous est arrivé de découvrir des choses en Argentine qui concernent l'Arbrelle.
Ah oui.
Je vous donne un exemple. On a retrouvé le guide, enfin une photo du guide d'utilisation de la machine à coudre envoyée par Timonier.
D'accord.
Écrite à la main.
D'accord.
Oui,
qui était parti en Argentine.
Qui était parti en Argentine parce que l'entreprise Timonier avait vendu sa machine en Argentine.
D'accord.
Avec un guide écrit à la main. Et ça nous a permis de voir. Ça nous intéressait parce que comme on avait l'autre machine, on avait le guide grâce à ça. On dépasse largement les frontières. On a par exemple trouvé un révolutionnaire de 1848. On a des personnes qui sont allées jusqu'aux États-Unis, qui ont retrouvé sa tombe, qui ont retrouvé les traces de ce qu'il avait fait aux États-Unis, puisqu'il avait fui après l'arrivée de Napoléon III.
Et ça, des histoires d'une personne, ce qu'il a vécu, etc., ça permet de mieux comprendre l'histoire en général, de s'intéresser
Absolument.
À des cas très précis
Ah non, en fait, il faut resituer l'histoire locale, non pas accrochée à son clocher,
ouais.
mais la resituer au niveau national. Je vous prends un exemple, on s'intéresse beaucoup à la route royale, vous savez, la numéro 7 qui était entre le Pimbouchin et Tassin-la-Demi-Lune, par exemple.
Ouais.
À la veille de la Révolution, on a connu une grande bande une grosse équipe de banditisme.
D'accord.
Qui volait sur les chariots, qui volait sur leurs propres chariots. Et donc, ça a donné lieu à un moment, parce qu'il y a eu des dénonciations, arrestations, etc. Pourquoi il y avait du banditisme ? C'est parce qu'il y avait du trafic. Et pourquoi il y avait un trafic exceptionnel ? C'est parce qu'on était en guerre avec les Anglais aux États-Unis pour aider les États-Unis. Sauf que les Anglais avaient fait un blocus de la France, et la seule solution pour remonter les produits de la Méditerranée jusqu'au nord de la France ou à Paris, on ne pouvait plus le faire par l'océan, il fallait le faire par la route. C'est-à-dire ils sont passés par le Rhône, après il fallait charger à Lyon, aller jusqu'à Rouen, donc ils passaient par l'Arbrelle ou Tarare, et ensuite ça prenait la Loire, vous voyez. Donc le fait d'avoir donné un coup de main aux États-Unis a changé complètement les flux sont passés chez nous, les marchands qui s'occupaient de ça n'arrivaient plus à contrôler leurs propres rouliers, c'était pas des routiers, c'était des rouliers à l'époque.
D'accord.
Et ses propres rouliers, il y avait déjà des choses qui tombaient du camion. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire, c'est pas de la regarder par le petit bout, mais c'est au contraire partir du local pour aller vers le national, voire l'international.
Et ça raconte des choses
Et ça raconte des choses extraordinaires. Et en même temps, ça nous apprend notre propre histoire nationale.
Ouais.
Ah, on aurait.
Ce travail que fait votre association,
oui.
Comment est-ce que. Parce que vous faites un travail d'historien, en fait. On n'a pas encore cité les Arborosa,
oui.
Que vous publiez chaque année plusieurs exemplaires. C'est une revue historique.
Mm-hmm.
Y a des livres qui sortent régulièrement. Ce travail, comment est-ce qu'il est fait ? Par qui ?
Alors on a un comité, c'est-à-dire qu'en fait en plus on n'est pas simplement l'association des Amis de l'Arbrelle et de sa région, mais on a créé ce qu'on appelle le groupement de recherche active des associations du patrimoine du pays de l'Arbrelle, ce qui fait le joli nom de GRAPA.
D'accord.
Alors c'est un collectif en fait, on n'a pas fait de fédération. Ce collectif, on n'intervient absolument pas dans la gestion de l'association, des vœux ou de Courzieux ou ce que vous voulez. Par contre, on se met autour d'une table et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble.
Ouais.
Et on va traiter un sujet, par exemple, comme la vigne. La vigne et le vin, le pays de l'Arbrelle est concerné, et c'est lié à l'abbaye de Savigny, etc., etc. Et on va sortir une exposition, des conférences, et un arborosa consacré à ce sujet-là.
Ouais.
Voilà comment on en arrive là. Et c'est grâce à cette synergie qu'on arrive à créer entre nous, où chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Parmi vos publications, vous me disiez, il y a des best-sellers, c'est des films qui ont fait des films, des livres qui ont fait des milliers de ventes.
Voilà, alors il y a des
ça passionne ces sujets-là et l'histoire locale.
Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, en plus, malheureusement, là, enfin, l'effet Covid a tendance à plus se retourner vers son propre pays, déjà, ouais, puisqu'on ne peut plus bouger. C'est vrai que ça a un effet. Mais depuis longtemps, le fait qu'on ait des publications sur une petite ville, parce que l'Arbrel est une petite ville, eh bien, je pense que petit à petit, il y a une sensibilisation. Et certains ouvrages, eh bien, on a peut-être mieux réussi que d'autres. Par exemple, on a fait l'Arbrel il y a 100 ans. Mmh. C'est une carte postale ou une photo d'il y a 100 ans et une photo aujourd'hui. Et le commentaire entre les deux.
D'accord.
C'est un best-seller. Ou l'histoire de l'Arbrel, les 1000 ans d'histoire de l'Arbrel, enfin les 1000 ans bien connus, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le republier tous les 2 ou 3 ans parce que ça s'épuise régulièrement.
Dans votre actualité récente, il y a la sortie d'un film.
Oui.
Qui s'appelle Le petit patrimoine rural du pays des pierres dorées. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce film ?
Oui, alors le film, on a déjà eu un petit peu l'habitude de travailler avec Patrick Caran, qui est notre réalisateur. On a déjà réalisé un film sur Savigny, Saint-Bel, l'Arbrel et Saint-Germain. On a travaillé aussi sur les grands hommes, et là, c'est le troisième. Alors celui-ci, carrément, on sort du pays de l'Arbrel. En fait, le pays de l'Arbrel est très, très peu traité dedans. On a traité le pays des pierres dorées et les monts d'or, parce qu'il y a une très grande ressemblance et similitude entre les deux zones. L'idée, c'était pas de faire un dictionnaire de tout le petit patrimoine, ça aurait été très, très ennuyeux, ça notre but, mais c'est de prendre quelques exemples, et c'est vrai qu'on a trouvé de très très beaux exemples, par exemple à Ville-sous-Jargnoux, par exemple, ou à Charnay, etc. Mmh. Et c'est de montrer que ce petit patrimoine, eh ben, finalement, est sauvé grâce à des bénévoles de ces associations qui font comme elles peuvent et qui souvent arrivent à travailler en bonne coopération, soit avec la commune, soit avec la communauté, avec les communautés de communes, ouais, pour le sauver. Et le deuxième aspect, ça a été de dire, regardez quand même, attention, ce sont des bénévoles qui font tout ça. Ouais. Attention, il faut qu'il y ait la suite après.
Qu'il y ait un soutien.
Qu'il y ait un soutien, et puis que les générations, parce que comme je vous l'ai dit, on est des passeurs. Donc ouais, est-ce qu'il y aura des passeurs qui pourront continuer ? Parce que je suis convaincu que sans ces associations historiques de passionnés, le petit patrimoine risque d'être en danger.
Mmh. Ouais, ça m'a fait plaisir dans la bande-annonce. C'est un endroit où j'aime bien me balader parce que c'est super joli, les pierres dorées. Et j'ai vu des vieux bâtiments que je crois avoir croisés en randonnée. Ah bon. C'est des choses qu'on aime bien voir quand on se balade dans le Beaujolais.
Des glacières, par exemple, ça surprend énormément. Trouver des glacières dans le Beaujolais,
ouais,
c'est peu connu. Bon, évidemment, il y a les traditionnels puits, il y a les cadoles. Le Beaujolais est très riche. Les croix, enfin bon...
Les lavoirs aussi.
Les lavoirs, lavoir aussi, c'était un lieu de vie autrefois. Hein. Aujourd'hui, c'est un lieu plutôt qui agrémente, et c'est agréable d'avoir un lavoir bien, avec de l'eau bien fraîche l'été quand il fait 30 degrés.
Quand on se balade en randonnée.
Quand on se balade.
Effectivement, ça fait du bien. Ce film, il va sortir le 11 décembre.
C'est ça, il sort le 11 décembre à la salle des communes, vous savez, à Anse. C'est un film qui est lancé par la mairie de Ville-sous-Jargnoux,
ouais,
en présence donc des producteurs que sont les amis du L'Arbrel et de la région arbreloise, et de son réalisateur Patrick Caran.
Comment est-ce qu'on pourra le voir, le découvrir? Il y aura.
Eh bien, écoutez, je vais vous passer les liens,
ouais, hein,
et donc à partir de 14h, vous aurez tout ça sur votre table et vous pourrez le communiquer à vos auditeurs.
D'accord. Il y aura des projections de prévues
Alors, pour un premier temps, il y a deux projections de prévues. Il y en a une qui est prévue, bien sûr, dans le Beaujolais, comme je viens de vous le dire, à Anse.
Ouais.
Et il y en aura une deuxième également de prévue, cette fois-ci à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, mais en janvier. On en reparlera
très
prochainement.
Bien. Très bien. Et puis, dans l'actualité de votre association aussi, je crois que vous mettez en place des conférences et des moments de parole pour présenter directement au public.
Oui, alors, pour le moment, quand vous connaissez la situation, je ne vais pas insister dessus.
C'est compliqué.
C'est compliqué, mais de plus en plus, on va essayer de faire... D'abord, on a déjà fait des conférences sur des thèmes très précis, parce que quand vous écrivez un arborosa de 80 pages, vous avez quoi raconter, parce que vous avez passé du temps. Donc, vous pouvez faire une conférence si vous avez la parole facile. Et puis on veut faire aussi des temps de rencontre quand on sort un arborosa pour en parler avec les lecteurs, pour leur donner envie de le lire et peut-être aller plus loin même.
Ouais, aller au-delà de...
Au-delà, et peut-être même demain avoir le lecteur qui devienne écrivain.
Et alors, pour récapituler les activités de votre association, parce qu'on a évoqué rapidement le musée sur le tissage,
oui,
qui a l'Arbrel, il y a donc les arborosas, il y a ce film. Comment est-ce qu'on se tient au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité de votre association ?
Eh bien, on a un site internet, donc ami-larbrel.
Ouais.
Et puis, il y a la possibilité de demander, d'avoir la communication, des informations qui est de ce qui se passe. Donc, s'il y en a qui veulent, ils vont sur le site, ils font un petit message, on les rentre dans notre base de données comme sympathisants.
Ouais.
Et à ce moment-là, ils reçoivent les messages de toute l'actualité. Par exemple, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, ce sont les visites guidées.
Ouais.
On est capable de faire des visites guidées. On a 7 types de visites guidées sur l'Arbrel. Donc, c'est vraiment de la culture intensive. Vous voyez, c'est comme l'agriculture, c'est pas des... Parce que rien que sur la petite ville, on peut présenter les grands hommes, on peut visiter l'église, on a l'Arbrel Renaissance, on a Maître Philippe, on a l'Arbrel et la géologie, parce que là aussi, on a posé notre candidature avec d'autres communes voisines pour entrer dans le géoparc. On attend la conclusion de l'UNESCO pour avril, et normalement, j'espère, je croise les doigts, qu'on rentrera, on viendra rejoindre la grande famille du Beaujolais.
Bon. Beaucoup de choses, effectivement, qui se passent du côté de l'Arbrel et avec votre association. Merci beaucoup d'être venu nous
en parler.
C'était
un grand plaisir. Et puis, vous savez que je pourrais en parler tout l'après-midi, mais je pense que ça finirait par fatiguer vos auditeurs.
À très bientôt.
À très bientôt et merci.
Ensemble sur Calade.
Allez, petite pause musicale tout en douceur. On écoute Arlo Parks sur Calade avec le titre « Hope ».
To talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peck and Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed.
c'est le titre qu'on vient d'entendre et c'était interprété par Arlo Parks. On passe tout de suite à notre rubrique alimentation santé.
Vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation santé.
Et pour nous parler d'alimentation et de santé, on va retrouver dans quelques instants notre chroniqueuse qu'on retrouve à distance avec nos liaisons satellites hyper modernes. Mais parfois il y a un souci. C'est le direct. Alors, est-ce que Charline est avec nous ?
Alors oui.
Bonjour.
Je suis tout avec vous. Alors ça m'a mis médiocre. Alors du coup, je suis pas sûre à 100% qu'on puisse tenir pendant la chronique.
Bon, on va tenter le coup quand même. On va essayer de vous garder bien avec nous. Aujourd'hui, on parle. Alors, on a commencé ça depuis quelques mois déjà, à s'intéresser aux troubles alimentaires. Et aujourd'hui, vous avez envie de me parler de troubles de l'oralité. C'est bien ça ?
Tout à fait. Alors c'est un nom un petit peu barbare. C'est des pathologies qu'on va retrouver, alors souvent chez les enfants, mais pas forcément uniquement, qu'on peut retrouver après avec des troubles neurologiques, des AVC ou même des troubles de type maladie neurodégénérative comme Alzheimer, où en fait les patients vont avoir de la difficulté à mâcher. On le connaît plus souvent aussi sous le nom de fausse route parfois. Alors ça fait partie des troubles de l'oralité, hein, la fausse route.
Ah, c'est quand on avale de travers, quoi.
Quand on s'étouffe en avalant, effectivement, alors ça fait partie de la fin des troubles de l'oralité, mais ouais. Chez le nourrisson, par exemple, ou chez l'enfant, ça se note très facilement. Vous avez des enfants, les parents disant oh, c'est génial, il met rien à la bouche. Et ce n'est pas toujours de très bons signes parce qu'un enfant qui ne met rien à la bouche, bah finalement, c'est quand même la base, quoi. On goûte avant toute chose. Quand on est enfant, c'est la première chose qui passe. Donc, ce n'est pas toujours très appétissant. On peut goûter des trucs qui ne se mangent pas, mais ça fait partie du développement normal de l'enfant. Et donc, du coup, les parents qui sont plutôt contents que leurs enfants ne mangent rien ou en tout cas ne goûtent rien, ce n'est pas toujours évident. Et donc, ça peut déboucher sur ce genre de trouble-là. Après, c'est un travail qui peut être d'assez longue haleine de rectifier ces troubles de l'oralité parce que ça peut être vraiment des difficultés, ne serait-ce qu'à mettre dans sa bouche, ouais. Sans parler même de mâcher ou d'avaler.
Et vous avez évoqué de nombreuses causes. En fait, il y a plein de raisons différentes qui peuvent amener ces troubles de l'oralité, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Alors, les principaux sont ceux qu'on trouve chez les enfants, mais il y a effectivement tout ce qui est trouble neurodégénératif, où là, effectivement, la personne n'arrive plus trop à savoir quand est-ce qu'il faut qu'elle avale, notamment. Et donc, le réflexe d'avaler ne se fait pas. Et donc, c'est là où on fait des fausses routes. Alors, il y a des tas de choses hein, qui rentrent en ligne de compte pour travailler autour de ça, notamment en diététique et en nutrition pour éviter que les patients ne s'alimentent qu'avec un seul type d'aliment ou avec une seule texture et qu'ils aient une alimentation très monotone. Ça, c'est le travail plutôt de la diététicienne. La diététicienne, à ce moment-là, elle va aussi avoir besoin d'autres paramédicaux que sont souvent les orthophonistes, ouais. Qui, eux, vont rééduquer, à réapprendre à déglutir correctement et à prendre des techniques spécifiques pour avaler et pas s'étouffer en avalant.
Ouais. Les conséquences, j'ai du mal à imaginer les conséquences que ça peut avoir, ce genre de trouble. C'est une alimentation déséquilibrée
Alors, c'est une alimentation déséquilibrée, en effet, parce qu'on est sûr que tel ou tel truc passe, donc on va privilégier ceci.
Ouais.
C'est très compliqué à mettre en œuvre parce que parfois, il y a des choses qui ont un peu deux textures. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la clémentine. La clémentine, d'abord, on la croque, elle résiste sous la dent, et après, il y a du jus. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées pour ces gens qui souffrent de troubles de l'oralité et de troubles de la déglutition, parce qu'effectivement, on peut quand même s'étouffer, même avec ce genre de produit-là. Après, c'est aussi chez les enfants qui vont souffrir de troubles du spectre autistique, où il va y avoir une idée très précise de comment il faut manger. Et donc, bah, on rééduque ça, en fait, en mettant dans la bouche au départ.
Ouais.
Et puis ensuite, en goûtant un petit bout ou en mettant dans des tétines sur lesquelles on va écraser. Et donc, du coup, prendre déjà le goût avant de prendre l'aliment en bouche. C'est un travail de longue haleine qu'on mène en général avec les orthophonistes, ouais. Justement, à ce niveau-là. parfois juste de désensibilisation de la bouche qui est juste trop sensible pour accueillir ce qu'elle devrait accueillir d'aliments ou de nutriments. Et le risque, c'est la dénutrition. Chez les enfants, c'est plutôt le retard de croissance, mais chez les patients neurodégénératifs, c'est plutôt la dénutrition qui risque d'aggraver la pathologie en elle-même.
Ouais. Et ça s'identifie, ça se repère facilement. Vous avez cité pour les enfants, des enfants qui ne mettent pas trop à la bouche. Est-ce que à tout
âge... on se rend compte surtout quand on tousse beaucoup à table, par exemple. J'ai plus du tout de batterie, ça va horriblement couper.
D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, Charline. Et ça a effectivement coupé, elle nous avait prévenu. Merci infiniment à Charline pour ses conseils. On va continuer en musique sur Calade. C'est du direct.
Ensemble sur Calade.
Et puisqu'on parlait d'oralité et de bouche, voici les Brigitte à bouche, que veux-tu ? Sur Calade avec à bouche, que veux-tu ?
Ensemble sur Calade. 100.9 Calade.
Allez, il est effectivement l'heure de parler zéro déchet avec Carole Sénélard. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, vous allez bien ?
Oui, merci, et vous ?
Très bien. Alors avec vous, on réduit nos déchets de toutes sortes de manières. Vous nous proposez toutes les semaines de nouvelles astuces.
Oui.
Dans quel domaine est-ce qu'on va travailler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vous propose de décorer votre table de réveillon ou votre table de Noël de façon le plus zéro déchet possible.
Très bien, c'est vrai que ça arrive bientôt, il faut commencer à s'y mettre.
C'est bientôt.
Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ?
Alors, déjà, il faut utiliser ce que vous avez déjà à la maison pour éviter d'acheter. Je suis sûre qu'au fond de vos placards, vous allez trouver une jolie nappe en tissu, des serviettes en tissu. Alors oui, certes, il faudra les laver, mais au moins, vous pouvez les réutiliser chaque année.
Bien sûr, oui. Puis on a tous une boîte à chaussures avec de la déco de Noël.
Oh oui, je pense. Donc, vous avez plein de petites choses à récupérer, à réutiliser, vous pouvez faire un joli centre de table sur un plateau, sur une belle assiette. Et donc, ça permet effectivement de décorer facilement. Si vous voulez vraiment utiliser ce que nous propose aussi la nature, j'ai quelques petites astuces.
Très bien. Alors, allons-y.
Alors, pour faire le pendant à nos recettes sur les agrumes que j'avais proposées dernièrement, je vous propose donc de découper vos oranges en tranches très fines, de les mettre sur une plaque de four et de les faire sécher au four pour qu'elles deviennent translucides et complètement sèches, donc dures. Et avec ces rondelles, vous pouvez, alors on peut prendre du citron, de la clémentine, de l'orange bien sûr, vous pouvez faire des guirlandes avec des bâtons de cannelle, avec des pommes de pin. Vous pouvez aussi les disposer sur la table en décoration. Ça peut faire une petite déco pour la serviette de table par exemple. Avec une jolie cordelette.
Donc on va être dans des couleurs de Noël avec des agrumes toutes rougeoyantes.
Oui, tout à fait. Ça va permettre aussi d'avoir des couleurs un peu qui changent, des couleurs un peu plus chaudes comme la cannelle, les bâtons de cannelle qu'on va trouver en boutique alimentaire. Après, vous pouvez aussi utiliser les pommes de pin. Donc là, on part en forêt, on part en balade si on a la possibilité pour récupérer alors des branchages, du houx, du gui bien sûr, des rondins aussi, enfin des branches qu'on va pouvoir couper si on est équipé pour faire des petites rondelles de bois pour faire un sous-verre ou pour poser une déco par exemple sur la table ou faire un dessous de bouteille aussi. Avec tous les branchages, les pommes de pin, les rondins de bois, le gui, les feuillages, on peut décorer sa table tout simplement. Quand on a avec une petite cordelette, on peut faire un nœud autour d'une serviette et puis glisser donc dans ce nœud une petite branche de houx. Ça peut être super sympa et ça décore tout simplement de façon zéro déchet la maison.
Il faut faire la déco du coup, j'imagine, pas trop tôt non plus avant Noël.
Alors on peut aller cueillir quelques, on va dire une semaine, deux semaines avant pour si on veut faire sécher les tranches d'orange. Il va falloir par contre s'y préparer un peu plus tôt pour qu'elles aient le temps finalement de bien sécher. Et après effectivement vous pouvez les conserver dans un seau d'eau au frais dans votre cave, votre garage, et puis bien les essuyer effectivement avant de les mettre sur la table.
Les tranches d'orange séchées, on les remet dans le
non les branchages pour les conserver. Non, les tranches d'orange, les tranches d'agrumes, vous les mettez dans une boîte hermétique pour bien qu'elles soient conservées, pour pas qu'il y ait d'humidité justement.
Et à manipuler, c'est pas trop cassant? J'aurais peur que ce soit très très fragile.
Alors faut pas couper les tranches trop fines.
D'accord.
Mais je dirais qu'entre un demi et un centimètre,
ça va.
Ça suffit.
Très bien.
Et puis, je vous propose aussi de recycler vos bouteilles, puisqu'on a tous des bouteilles de vin ou des bouteilles de jus de fruits, en bougeoir. Donc, soit vous glissez tout simplement la bougie dans le goulot en adaptant effectivement le diamètre de la bougie au diamètre du goulot de bouteille. Vous pouvez aussi, pour lester un peu vos bouteilles avant, mettre un peu d'eau et un joli branchage de lan, ça peut être sympa aussi. Et puis un petit DIY, donc un petit tuto créatif, on a tous un bocal à la maison. Je vous propose de glisser dedans des noix ou des noisettes, mais avec leur coque, c'est-à-dire complètement entière, pas décortiquée. Vous glissez votre bougie au milieu de ces noix et de ces noisettes. Ça va permettre de, qu'elles tiennent bien debout, qu'elles soient bien serrées. Et puis vous ajoutez un joli ruban autour du bocal et vous avez un joli bougeoir que vous pouvez poser sur
la table, la maison.
Pour le réveillon de Noël ou du jour de l'an.
C'est parfait.
Et puis après, il suffit de casser les noix et les noisettes pour les manger.
Donc, et c'est pas perdu.
Voilà, c'est pas perdu. Bon. Et ça fait une jolie table.
Et vous faites preuve de beaucoup d'imagination pour trouver toutes ces idées. Il suffit de regarder ce qu'il y a dans la nature.
Complètement.
S'amuser avec, après on peut improviser. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, puisqu'on est parti dans les décorations de Noël, place à la musique de Noël. Voici Run DMC avec Christmas in Hollies sur Calade. Et ouais, il n'y a pas que Mariah Carey qui célèbre Noël en musique. Il y avait aussi, avant, bien avant elle, les Run DMC avec ce titre Christmas in Hollies. Et ça va être la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je voulais profiter du petit temps qui me reste pour remercier tous les chroniqueurs de cette émission qui font des rubriques de façon bénévole tout au long de l'année. Merci beaucoup à eux pour leur travail. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour une nouvelle émission. Et puis d'ici là, vous retrouvez le podcast sur radio-calade.fr et la rediffusion qui sera diffusée demain matin à 10h. Excellente journée. Je vous laisse avec les Beatles et le titre Get Back. À demain. Ciao, ciao.
chickens and wild chickens.
Ensemble sur Calade.